France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle George Benjamin. Je suis né à Londres le 31 janvier 60. Et je suis compositeur, chef d'orchestre, peut-être pianiste et professeur de composition.
George Benjamin, vous avez cette enfance dans un quartier central à Londres. On entend vos parents qui sont dans les arts, l'édition. Quel était peut-être un petit peu le quotidien de la famille avec votre sœur aînée? Est-ce qu'il y avait des rituels, des sorties, des souvenirs que vous gardez?
J'ai fréquenté souvent les musées pendant ma jeunesse, souvent avec l'école, de temps en temps avec la famille aussi, de temps en temps avec des amis. Mais surtout, la vie culturelle était décidée pour moi. C'était les concerts. On allait 2-3 fois par semaine pour entendre les œuvres que j'aimais. Et dès que je suis arrivé à l'âge de 12 ans, 13 ans, je suis allé au concert moi, toute seule. Très souvent. À l'opéra aussi. Je me souviens, j'avais vu Wozzeck à l'âge de 13 ans. J'avais vu La Damnation de Faust quand j'avais 10 ans. La Flûte enchantée à l'âge de 8 ans. Beaucoup, beaucoup. Alors que j'étais à Londres, assez près des grandes salles de concert et d'opéra, ça servait à beaucoup. Mais aussi, j'avais des enregistrements et des partitions. Aussi, il faut dire qu'avec tout mon enthousiasme pour la musique, il n'y avait pas tellement d'espace pour autre chose. Car il fallait quand même que je fasse mes devoirs. J'ai pris les mathématiques très au sérieux et ce n'était pas facile. Je devais trouver jusqu'à 11 heures du soir de temps en temps pour achever mes devoirs. Et puis, j'avais l'école samedi matin. Alors, il n'y avait pas tellement de temps libre.
Dans ces grands concerts, est-ce que vous avez entendu des grands chefs ou des grands solistes?
Je dois dire avec beaucoup de honte, je m'intéressais moins aux solistes. J'ai entendu des très grands solistes, Rubinstein, Oistrakh, etc. Mais surtout, c'était les symphonies et les poèmes symphoniques que j'aimais et l'opéra. J'avais tort. Que maintenant, par exemple, comment j'aurais aimé entendre Richter jouait 30 fois. Cet extraordinaire pianiste. Et depuis mes études, j'ai des interprètes pour lesquels j'écris, des grands musiciens. Alors j'ai changé dans cette direction. Je pense à Pierre-Laurent Aimard, par exemple, à Tabea Zimmermann, ou etc. Des traits de les plus extraordinaires exécutants. Mais pendant ma jeunesse, j'étais moins intéressé par les solistes, plus intéressé par les œuvres orchestrales, les opéras. Alors j'avais entendu Kayan, Bernstein, Colin Davis, etc. Et parmi eux, Pierre Boulez aussi, quand j'étais tout jeune. Klemperer, j'avais entendu, en dirigeant le deuxième de Mahler, etc. Des très grandes exécutions. Et avec une œuvre que j'aimais, je suis allé l'entendre plusieurs fois. J'ai dû entendre le septième de Beethoven 20 fois pendant ma jeunesse. Le deuxième de Mahler 15 fois. Et je dois dire que ma répertoire n'était pas tellement grande. J'ai tombé amoureux de certaines œuvres et je pouvais réentendre ces œuvres des centaines de fois. Et c'est ce qui est drôle, c'est que j'étais fou de Berlioz à l'âge de 9 ans, fou de Debussy à l'âge de 12 ans, Berg à l'âge de 14 ans. Et il y a un certain moment où je reste dans l'ambiance d'un de ces créateurs grands. Et puis, une nouvelle fenêtre ouverte, et je découvrais quelque chose d'extraordinaire de nouveau. Et ça m'a, on pourrait voir de mes œuvres très mauvaises de jeunesse, quel compositeur me fascinait d'année en année.
Dans ces cas-là, vous vous sentiez un peu comme une éponge.
Oui, tout à fait. Et il faut être une éponge si on veut être créateur. Il faut digérer beaucoup de choses pour trouver soi-même, je crois.
Dans toutes ces musiques que vous goûtez, on entend que l'opéra a une grande place.
Oui.
Est-ce que c'était aussi le plaisir du drame, le plaisir des mots? Parce que peut-être que quand vous entendez des opéras et que vous êtes tout jeune, vous ne parlez pas encore le français, vous ne parlez pas encore l'allemand, et pourtant, ça vous emmène.
Pas tellement à cette époque le mot, je dois dire, mais c'était le drame, et c'était extraordinaire mélange musique et drame et chant. Et quand ça marche bien, c'est hallucinant. On perd la conscience de temps. On entre dans un monde étranger et lointain. L'existence temporelle n'existe plus. Ça m'est arrivé de temps en temps. Je me souviens d'une exécution à Édimbourg où je suis allé avec ma mère de Parsifal. De l'Opéra du Rhin sont venus pour jouer Parsifal. J'avais 15 ans, je ne l'ai jamais entendu. Surtout par le premier acte. J'étais pris comme par une drogue. Le côté ritualistique et la beauté sonore de Wagner et cet exceptionnel langage harmonique dans cette œuvre. Et je me souviens, pas seulement l'exécution elle-même, mais les journées qui suivaient, j'entendais cet parfum harmonique dans mon oreille ou mon âme intérieure pendant des jours. Je ne pouvais pas le sortir de ma tête. Mais je me souviens aussi, comme j'avais déjà dit, de Wozzeck, d'Elektra, de Berlioz, de plus tard de Janáček, des exécutions qui m'avaient marqué pour toute ma vie.
Alors, George Benjamin, il y a des professeurs, vous en avez parlé, il y en a un peut-être dont on pourrait parler désormais, qui est Peter Gellhorn. Lui qui a, je crois, quitté l'Allemagne pour l'Angleterre, juste avant la guerre, qui lui-même avait un professeur qui avait connu Brahms.
Mmh, c'est vrai.
Tout ça vous met dans une perspective historique.
Oui. Comme il était moitié juif. Moi, je suis juif. Lui, il était moitié juif, mais il a dû échapper de Berlin dans les années 30. Et je l'avais rencontré à l'âge de 13 ans. Je suis allé lui voir chaque, je crois, jeudi matin à 9 heures. Vous savez, Londres est très grande, trop grande. Et la distance, ça a duré une heure en bus. Il fallait que je manque 3 ou 4 heures d'école chaque jeudi. Heureusement, l'école m'avait donné la permission. Lui, il était musicien de très grande qualité, très haut niveau de conscience, de valeur musicale. Et il était chef d'orchestre, compositeur et pianiste. Il a connu Messiaen, Boulez, Benjamin Britten, Tippett, beaucoup de grands noms. Surtout, il était mon professeur de piano. Mais en plus, il était mon professeur d'harmonie. Et de temps en temps, je lui montrais mes partitions personnelles. Il disait très peu. Il était encourageant, mais il ne voulait pas dire beaucoup. Mais c'était quelqu'un de formidable, parfait professeur pour cette époque de ma vie. Et j'ai resté chez lui pendant 3 ou 4 ans. Et on est arrivé à un certain moment, quand j'avais 16 ans, où nous avons décidé tous les deux qu'il fallait que j'aille autre part. Ce qui n'est pas tout à fait normal pour un professeur, car souvent les professeurs veulent garder leurs élèves jusqu'à l'âge de 75. Alors il avait écrit une lettre à Messiaen, et nous avons dû attendre quelques mois pour une réponse. La réponse était très touchante. D'abord, Messiaen ouvrait ses portes en disant « Vous pouvez venir avec votre élève me voir à Paris ». Mais je crois déjà que Messiaen était touché parce que, et ça je trouve étonnant, c'est la seule fois pendant ses expériences de professeur de composition, pendant 40 ans, qu'un autre professeur lui a écrit en disant « Je veux que vous preniez mon élève ». C'est la seule fois que c'est arrivé. Moi j'aurais imaginé que ça arrive 100 fois par an, mais non, c'était la seule fois. Et puis c'était si jeune, j'avais 16 ans.
Les grands entretiens de George Benjamin, France Musique.
Quand vous êtes étudiant essentiellement donc de piano, tous ces âges de l'adolescence avec ce premier grand professeur, qu'est-ce que vous jouez? Qu'est-ce que vous aimez jouer? Est-ce qu'il y a la jouissance du toucher de l'instrument lui-même ou c'est aussi de pouvoir jouer les symphonies de Beethoven sur un piano? Qu'est-ce qui est le plus fort?
Au piano, je me sens chez moi. Le toucher, bien sûr, le son aussi. Le piano est un instrument extraordinaire parce qu'on peut faire une énorme quantité de choses avec que deux mains. Et les pédales, bien sûr. Et ça veut dire qu'on peut digérer, vraiment digérer, un énorme répertoire de musique écrit, conçu pour le piano et autre chose, aussi des transcriptions. Puis j'utilise beaucoup de mon temps au piano pour improviser pour moi-même. Une autre chose qui montre quand même, j'étais un enfant un peu étrange, que j'ai resté... Pauvres parents, pauvres voisins. Et j'ai resté pendant 4 heures en improvisant pour moi-même. Pour personne, pour moi-même. Je prenais des histoires de temps en temps, ou je faisais des orages au piano, ou je faisais des copies de compositeurs que j'aimais, n'importe quoi. Musicalement inutile. Très bas qualité de musique surtout. Mais c'était pour moi. À part de cela, bien sûr, il y avait les gammes et les arpèges. Je ne l'ai jamais aimé, hélas. Mais je me souviens des œuvres capitales qui m'ont vraiment frappé pendant mes études de piano. D'abord, le Fantaisie de Schumann, la plus belle œuvre du piano romantique de l'Allemagne. un vrai chef-d'œuvre, très difficile à jouer. Je n'ai jamais pu le jouer comme j'avais voulu, mais j'ai dû l'avoir travaillé pendant des mois au clavier. Puis une autre œuvre très difficile, Le Temple de Couperin de Ravel. J'avais joué beaucoup de Ravel, Valse Noblesse Sentimentale, la Sonatine, Ma Mère Loire, son écriture de piano. Là, il n'y a pas de plus belle. J'ai une grande admiration. Mais Debussy aussi, beaucoup d'œuvres de Debussy, de Chopin aussi, Beethoven bien sûr, Mozart et Bach.
Quand vous dites, George Benjamin, que vous composez, que vous improvisez, que vous vous racontez des histoires, je me demandais s'il y avait, dans votre jeunesse à Londres, des lectures fondatrices.
Can I have a little?
Why can't I find it? Sorry, excuse me, just...
Alors, hélas, je ne le trouve pas, mais il y avait un livre de mythes anciens, grecs, romans et d'autre part, qui était très important pour moi pendant ma jeunesse. Il y avait tous les grands mythes de l'histoire ancienne dans un livre avec des très jolies illustrations. Et de temps en temps, quand j'avais un après-midi ou quelques heures libres, j'avais pris un de ces histoires et j'avais imaginé dans ma tête tout un opéra avec le chant et l'orchestre improvisé. Je ne jouais pas au piano, j'ai entendu tous les timbres et tout la drame internellement. Mais à part de cela, je ne lisais pas autant que je devais. Mais maintenant, je lis 20 fois que pendant mon adolescence. J'avais pas assez de la place avec la musique pour autre chose, peut-être. Maintenant, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Cette musique qu'on entend en soi, est-ce que c'est si facile à vivre?
Oui. Vous savez, c'est volontaire. La plupart du temps, c'est pas qu'on ne peut pas l'arrêter. Ça n'arrête pas de dormir, ni de respirer, ni de réfléchir, ni de faire le devoir de mathématiques. Non, c'est une décision. Je vais faire une excursion maintenant. Et ça se fait. Je ne le fais plus comme ça maintenant. Heureusement, il faut quand même devenir sérieux et professionnel. Comme compositeur, il faut oublier, pas oublier, mais passer au-dessous des rêves d'enfance. Mais comme je vous ai dit, j'étais solitaire. Et en effet, avant mes sciences, je n'avais pas un professeur de composition. Ça veut dire que c'est une chose particulière et privée de moi-même. Et j'avais une vie internale qui était assez chargée et de temps en temps qui était très occupée par des grands orchestres avec 8 cors et 5 trombones et beaucoup de grandes percussions, bien sûr. Si je faisais une improvisation avec une mythe violente et sombre, j'avais besoin de pas mal de bruit.
Je me dis toujours que c'est la quête d'une vie que de rejoindre par le papier et la vérité ce qu'on entend à l'intérieur de soi. Ces mondes que vous avez, ces déflagrations parfois, ces grandes envolées, après de les réaliser et de leur donner corps réellement, j'imagine qu'il y a un voyage qui peut être parfois déceptif aussi.
Peut-être. Je crois ce que veut dire que j'avais une capacité d'avoir une imagination claire dans l'oreille interne. Mais toute seule, si on ne le cultive pas, si on ne travaille pas, si on ne trouve pas de technique précise et raffinée et complexe, c'est inutile. Ça ne sert à rien du tout. Il faut maîtriser et cultiver l'art et la technique de musique. Sans cela, on ne fera rien du tout. Et je crois que Monsieur a compris assez vite que j'avais cette capacité d'entendre, une capacité selon lui qui était quand même très importante. Mais il faut la cultiver et il faut que ça devienne un guide et quelque chose qui soutient l'invention, la conception, et la réflexion. Mais toute seule, si on est paresseur et on pense que ça suffira, on ne fera rien du tout.
Alors George Benjamin, on a parlé de Peter Gellhorn. C'est à lui que vous devez la rencontre avec Olivier Messiaen, 1976. Vous quittez Londres pour Paris. Comment se passe cette première rencontre avec Olivier Messiaen?
La première rencontre, c'est je crois, le 15 avril 1976. Je suis invité avec mon professeur Peter Gellhorn à Rue Marcadet. C'est 17e arrondissement à 17h. On arrive bien en avance, on attend une heure dans le square devant son appartement. Les secondes passent lentement. C'était une journée de printemps assez lourde et assez chaude. J'avais très chaud, j'étais très très nerveux. On a monté au 5e étage, Yvan Laurier était là et nous avons reçu très gentiment. Moi je tremblais de peur. Mais si on n'est pas là, elle nous offre des éclairs de bananes et chocolat. Et on mange un peu, je tremble de peur. Les secondes continuent de passer et puis j'entends un clé qui tourne. Alors, il est là, il arrive, j'ai encore plus de peur et je vois ce gentilhomme doux de mine et souriant et simple et gentil. Il me demande de jouer une de mes œuvres. Je m'assois au piano et je joue une œuvre qui devait durer 2 minutes. Mais j'avais une si grande tension, une si grande nervosité que je l'avais joué 2 fois trop vite. Et c'est terminé dans 60 secondes. Je tourne ma tête, mon destin est devant moi. Et ce que je vois, c'est un grand sourire, gentillesse. Et il dit, mais c'est bien, vos harmonies sont bien, mais vous avez joué beaucoup trop vite, il faut prendre ce tempo. Il siffle le bon tempo, rejouez pour moi. Je le rejoue dans le bon tempo, et puis il fallait qu'on reste pendant 1 heure, mais nous avons resté 2h30. J'avais tous mes œuvres de jeunesse, il voulait un après l'autre. Il y avait une œuvre pour orgue que Peter Gellhorn et moi, nous avons répété. Gellhorn en jouant les pédales, moi qui jouais les manuels, mais Messiaen voulait jouer les pédales au lieu de mon professeur Gellhorn, etc. L'avion était pour rentrer à l'Angleterre, c'était 21h30. Il fallait que nous quittions la maison Messiaen vers 19h. Nous avons quitté chez Messiaen à 20h15. En effet, c'était un miracle, nous avons pu revenir à l'Angleterre. Alors, il m'avait dit, Benjamin, venez mon étudiant tout de suite. Je vais quitter le conservatoire en 2 ans. Venez aussi vite que possible.
C'est sur cet extrait des Offrandes oubliées de Messiaen par l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par George Benjamin, que se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec George Benjamin. Réalisation, Perrine Minguy. Prise de son, Thibaut Nassimben. Mixage, Cédric Chatelus. Attaché de production, Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.